est un homme dans la Bible que j'aime beaucoup. Il est vraiment, je crois, un modèle à imiter. On connaît peu de choses de lui finalement parce qu'il est question de lui simplement sur un ou deux chapitres. Mais la trace qu'a laissée cet homme dans la parole de Dieu nous atteint encore à nous aujourd'hui. Et l'homme dont il est question ici, c'est Étienne. Étienne est un homme qui vraiment a vécu tout ce que Jésus avait préparé pour lui. Le témoignage que rend la parole de Dieu le concernant est merveilleux. Que sait-on d'Étienne ? L'essentiel, qu'il était un homme plein d'Esprit Saint, qu'il était un homme plein de foi, plein de grâce, plein de sagesse, plein de puissance. Lorsqu'il témoignait de Jésus-Christ, les malades étaient guéris. Lorsqu'on l'a accusé, la sagesse de Dieu se manifestait à travers sa bouche. Et lorsqu'on le conduisait devant les tribunaux, la gloire du Seigneur rayonnait sur son visage. Étienne est un modèle. Étienne est le modèle de ce que devrait être chaque croyant en Jésus-Christ. Et pour faire le lien avec le thème du message de ce matin, Étienne est un homme qui a révélé la véritable nature de Jésus-Christ qui était en lui. Ce que Christ avait déposé en lui s'est manifesté à travers sa vie. Je vous invite ce matin à ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Et je commence donc aujourd'hui une série en deux messages que j'ai intitulé « La révélation des fils de Dieu ». Et cette série s'inscrit totalement dans la période que nous vivons, celle de la Pentecôte. Et donc je mettrai particulièrement l'accent ce matin sur l'œuvre du Saint-Esprit. Romains 8, verset 18. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. » Dieu nous fait cette grande promesse, bientôt, il révélera dans nos vies la plénitude de sa gloire. Ce que nous sommes en Jésus-Christ sera pleinement manifesté. Alléluia. Mais je n'ignore pas que l'apôtre Paul parle d'un temps qu'il appelle la gloire à venir. Et cette gloire à venir fait référence au jour du retour de Jésus-Christ. Et quand il parle des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il parle des temps présents. Alors bien sûr, pour nous, la gloire à venir est plus proche que le temps présent dans lequel vivait l'apôtre Paul, parce que nous croyons que Jésus vient bientôt. Mais malgré tout, nous sommes encore dans le même temps présent, dans le même esprit du temps présent que celui que Paul connaissait. La gloire à venir, nous l'attendons. Elle vient bientôt. Néanmoins, dans ce temps présent, nous sommes appelés à vivre. Nous vivons dans un temps que nous ne pouvons pas esquiver. Et dans ce temps présent, même si nous sommes des pèlerins, des voyageurs, nous sommes appelés aussi à être des témoins de Jésus-Christ. Le temps présent, le temps d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps de la gloire. Et dans ce temps, tout comme la création, Paul le dit, nous soupirons. Nous soupirons après la gloire à venir, je l'espère. Parce que pour nous, le meilleur n'est pas sur la terre, mais le meilleur est auprès du Seigneur. Tout ce qu'il prépare pour nous, nous le désirons. Et quand nous regardons au temps présent, nous souffrons. Nous souffrons à cause des réalités médiocres qui nous entourent. La création est soumise à la vanité, à la fragilité. Dans la formulation, Paul nous renvoie au livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Quant à nous-mêmes, enfants de Dieu, bien nous sommes dans l'attente de l'acquisition de la plénitude de notre condition. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous sommes n'est pas encore pleinement manifesté. Et comme il l'écrit, nous attendons, certains disent donc la rédemption de notre corps, d'autres écrivent la libération. La libération de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, si je dois qualifier les temps présents dans lesquels nous vivons, nous pourrions dire que ce sont des temps de limitation, de limite. Mais lorsque Paul utilise ces deux verbes, souffrir et soupirer, il ne veut pas dire que dans ce temps présent, nous devons subir les choses, attendant passivement, stoïquement, la gloire à venir. Car si la gloire que nous attendons n'est pas encore ouvertement manifestée, ne le sera qu'avec le retour de Jésus. Par ailleurs, l'apôtre Paul écrit que nous qui sommes nés de nouveau, nous portons déjà Jésus en nous, et donc nous portons l'espérance de la gloire à venir. Et cette gloire, quelle est-elle, cette gloire, cette espérance de la gloire, sinon que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit qui représente les prémices, la promesse de la plénitude que Dieu nous réserve. Nous ne vivons pas dans la plénitude, nous vivons dans un temps de limite. Mais nous devons réaliser que nous qui sommes rendus participants de Dieu, l'apôtre Pierre dit cette chose extraordinaire, nous sommes rendus participants de la nature de Dieu. Et Paul rajoute, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit. Nous aussi qui sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous sommes ici, dans notre temps présent, dans notre temps de limite, appelés à commencer à manifester la gloire que nous portons en nous. Ainsi donc, si notre condition de fils de Dieu, si cette nature, cette gloire, si notre puissance réelle ne seront pleinement révélées qu'au jour du retour de notre Seigneur, il nous appartient dès aujourd'hui de ne plus nous cacher. Et il est temps que le peuple de Dieu en France, il est temps que nous commencions à nous révéler, à révéler notre nature. Notre véritable nature qui est celle de Jésus-Christ. Et donc, à sortir d'une sorte de semi-torpeur dans laquelle nous sommes trop souvent plongés. Cette série que j'ai intitulée donc « La révélation des fils de Dieu » aura deux parties. Aujourd'hui, je parlerai de la révélation de la nature de Christ dans nos vies et à travers nos vies. Et la semaine prochaine, je parlerai de la révélation de la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. Mon premier point est donc de dire que nous vivons dans un temps de limitation. Par la nouvelle naissance, nous sommes donc devenus enfants de Dieu, participants de la nature divine de notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien qu'à la nouvelle naissance, au temps de la conversion, Dieu nous a donné entièrement Jésus-Christ. Il nous a tout donné concernant le Fils. Toute la vie du Fils a été implantée en nous. Ce que Jésus est, dans ses sentiments, dans sa nature, dans son caractère, tout cela a été mis en nous. Et aucun d'entre nous ne peut dire à Dieu, « Tu ne m'as pas tout donné ». Tu en as donné plus à l'un et moins à moi, ce n'est pas vrai. Entre parenthèses, c'est peut-être vrai pour les dons. Car Dieu donne à l'un, il donne à l'autre. Mais concernant la vie de Jésus, il nous a tous donné pareillement à chacun et il a donné à chacun tout entièrement. Mais cette vie de Jésus-Christ qui a été implantée en nous est une semence. Une semence qui doit grandir en nous afin de porter du fruit au centuple. Et nous sommes conscients qu'il y a du travail encore à faire. Mais ce qui est important, c'est que nous désirions que la vie de Christ grandisse en nous. Alléluia. Je l'ai souvent dit, Dieu ne fixe pas de limites. Dans un monde de limites, Dieu ne nous fixe pas de limites quant à l'étendue de l'œuvre qu'il peut accomplir dans nos vies. Alors, ça nous amène à réfléchir sur un décalage qui existe entre ce que Dieu nous appelle à être et ce que nous sommes trop souvent dans la réalité. Je l'ai dit, nous vivons donc dans un temps de limite. Et il faut reconnaître que nous vivons comme oppressés. Oppressés intérieurement. Je vous renverrai à l'étude que j'ai menée au mois de novembre concernant l'iniquité. Et nous savons que trop de chrétiens subissent encore la puissance de l'injustice dans leur vie. Malgré leur désir de servir le Seigneur, malgré leur expérience de repentance et de conversion, trop souvent, Satan garde des bastions dans la vie des croyants. Et à cause de cela, il demeure sous son oppression. Autre source d'oppression intérieure, c'est ce que j'appellerais l'empreinte de l'enfance. Et cette empreinte de l'enfance est souvent une empreinte indélébile dans la vie des hommes. Les années sont tellement importantes, ces années de la petite enfance. Elles nous marquent. Je ne dis pas qu'elles nous marquent simplement en blessures terribles, mais elles marquent notre caractère. Elles marquent notre façon de voir la vie. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais ça reste une empreinte qui parfois nous limite. Et de ça aussi, le Seigneur veut nous guérir et nous libérer. Nous sommes aussi oppressés extérieurement. Nous sommes dans un monde corrupteur, un monde séducteur, un monde tentateur, un monde incrédule, un monde irreligieux. Et il n'est pas facile aujourd'hui d'esquiver. Vous évitez de regarder à droite et vous êtes attaqué à gauche. Ce monde est oppressant. Sans cesse, l'impudicité est dévoilée au grand jour. Sans cesse, des paroles d'injures contre notre Dieu, des paroles blasphématoires. Et on se sent comme cerné. Et dans notre amour pour le Seigneur, véritablement poussé dans nos retranchements. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes aussi oppressés spirituellement. Tout d'abord, parce qu'il en est un qui s'appelle l'accusateur de des frères. Satan, constamment en train de nous accuser devant Dieu, en train de nous accuser nous-mêmes, en train de vouloir nous tenir là, sous sa coupe, nous abaisser, nous humilier, nous dire « tu n'es pas capable, tu n'es pas digne ». Et puis il y a aussi, comme oppression spirituelle, les propres limites que nous mettons à notre développement, notre engagement de foi, notre consécration, notre désir d'avancer. Nous vivons donc dans un temps de limites. Et ces limites empêchent la pleine manifestation de la nature de Dieu qui a été implantée en nous. Alors nous regardons au temps de la gloire à venir lorsque Christ reviendra. Toutes ces limites seront anéanties, nous disons Alléluia, intérieurement dans notre propre vie. Ça sera la libération, la délivrance de nos corps. Alors véritablement, nous pourrons vivre. Tout ce que Christ est en nous, nous le vivrons parfaitement, nous le vivrons en plénitude. Nos corps fatigués seront renouvelés. Toutes les blessures de l'âme auront été guéries. Tout ce qui nous empêche d'avancer dans cette vie, tout ça aura été transcendé en un clin d'œil lorsque Christ nous donnera un corps semblable au sien. Un corps incorruptible. Ce corps ne sera plus soumis à la puissance de la séduction, de la tentation. Un corps qui ne péchera plus. Un corps qui ne sera plus malade. Un corps qui sera immortel. Nous l'attendons, nous le désirons, nous le voulons. Et nous ne serons plus aussi sous l'oppression d'un monde déchu. Paul parle souvent de ce moment où Christ va nous arracher. L'idée, c'est qu'il va nous empoigner. Pris dans un monde de ténèbres, il nous empoigne. Et il nous emmène avec lui dans son monde. Alléluia. Viens bientôt, Seigneur, Maranatha. Maranatha. Mais comme Paul le dit, le meilleur c'est là-haut, mais tant que je suis ici, je veux rester utile. Et quand on regarde à la situation de notre temps présent, et ce qu'en dit la Bible, nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe autour de nous, et puis nous n'avons pas grand-chose à espérer concernant ce monde, parce que la Bible nous dit nulle part que les conditions ambiantes vont changer. Au contraire, ça va aller de pire en pire. Et nous avons l'impression d'y rentrer de plus en plus. De tous côtés, débordement de débauche, d'idolâtrie, d'occultisme, de corruption, de tout ce que vous voulez. Et ces choses vont atteindre même un tel paroxysme que viendra un moment où l'Église, accompagnée en cela par le Saint-Esprit, finira par dire « Seigneur, viens ! Viens, Seigneur !» Non pas que l'Église aura été vaincue par le monde, par la situation morale de ce monde, mais ça deviendra complètement insupportable. Et alors le Seigneur viendra nous prendre. Seulement jusque-là, nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans un monde qui est donc fait d'oppression, qui est fait de limites, un monde qui nous empêche d'atteindre la plénitude, mais n'empêche que nous avons un défi. Et ce défi, c'est celui de révéler au monde notre véritable nature, rendu participant de la nature de Dieu en Jésus-Christ. Révéler au monde ce que nous sommes. Mes frères et sœurs, Christ n'a pas donné sa vie et ne nous a pas sauvés pour que nous menions une vie terne. Des gens sans impact. Je dirais même plus, Christ ne nous a pas sauvés, n'a pas donné sa vie pour que nous menions une vie médiocre. Il ne nous a pas sauvés pour que nous restions des œuvres inachevées, de perpétuelles ébauches, incapables de manifester au monde leur véritable nature. Malheureusement, c'est trop souvent ce qui arrive. Des chrétiens qui ont fait quelques pas avec Dieu, mais qui se laissent submerger par les soucis, les plaisirs du monde pour certains, par les difficultés pour d'autres, ou alors qui vont se satisfaire de ce qu'ils ont découvert en Jésus et ne chercheront pas davantage à aller dans ce que Christ leur offre. Mais le Seigneur a un désir, celui de nous perfectionner. Comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, ce que Dieu commence, il l'achève, ce que Christ commence, il l'achève, il l'amène à la perfection. Christ veut nous rendre parfaits, bien sûr, ces choses se feront en plénitude dans le ciel. Mais le Seigneur a ce désir que sa nature, que sa vie qu'il a mis en nous soit révélée dans ce monde. Et je vais vous dire, pour qu'elle soit révélée dans ce monde, il faut d'abord qu'elle soit révélée en nous. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, a ce verset extraordinaire. Tel il est, tel nous sommes. Non pas tel il est, tel nous serons là-haut. Ah oui, ça serait bien. Mais voilà le défi. Tel il est, tel nous sommes. Ce que Christ est là-haut, dans les cieux, assis à la droite de Dieu, nous le sommes aussi sur la terre. Et lui qui brille de mille éclats dans les cieux, nous appelle aussi à briller de mille feux sur la terre. Mais je vais être franc. Combien de frères et de sœurs ont fini par capituler ? Par capituler devant, ben oui, des bastions d'iniquité qui demeurent dans leur vie. On finit par capituler devant leur caractère, quelle montagne ! On finit par capituler devant la puissance de ce monde et la puissance de Satan. On finit par dire, oh, j'arrête là, je n'y arrive pas. Je vais vous dire, n'est-ce pas là le plus important combat que Satan mène sans discontinuer, freiner notre croissance spirituelle ? Et n'est-ce pas une victoire pour lui quand il arrive à étouffer la vie de Jésus-Christ dans un croyant ? Voire même à la stopper. Parce que chaque fois qu'il fait cela, il empêche une plus grande révélation des fils de Dieu dans ce monde. Mes frères et sœurs, au lieu de baisser les bras, relevons donc le défi. Oui, nous vivons dans un temps imparfait. Nous vivons dans un monde injuste, particulièrement dans notre culture. Nous sommes sans cesse, de plus en plus, exposés à toutes sortes d'horreurs. Ça ne va pas changer. Maintenant, ce que nous croyons, c'est que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Nous ne sommes pas rentrés dans le parfait encore, mais le parfait est rentré en nous. Et Jésus a décidé que ce parfait devait prendre toujours plus de place dans nos vies. Alléluia. Maintenant, ce que Dieu nous demande, avant même de parler de briller, ce que Dieu nous demande, c'est de tenir une position et de refuser de se laisser asservir. Ce que Paul nous dit dans les Galates. Oui, nous avons été affranchis pour la liberté, nous ne voulons pas nous placer sous un nouveau joug. Je ne me laisserai asservir par rien. Mon frère, ma sœur, es-tu libre ou es-tu encore asservi? Si l'injustice, l'iniquité trouve encore une accroche dans ta vie, tu es encore asservi. Si la puissance de la séduction, de la tentation te bouscule, te renverse, tu es encore asservi. Et Christ veut te délivrer parce qu'il veut que tu sois libre. Mon frère, ma sœur, si le passé, cette empreinte de l'enfance dont je parlais, pèse encore sur ta vie jusqu'à t'asservir, alors tu n'es pas encore libre. Mais Christ veut te rendre libre. Christ veut restaurer ton intégrité morale. Il veut te donner toute sa vie. Quelques questions. Avez-vous pensé ces derniers temps à demander au Seigneur d'agir en vous? Oh, souvent, nous demandons au Seigneur d'agir autour de nous, d'agir pour nous, éventuellement d'agir en faveur de notre corps ou de situation, mais lui avons-nous demandé d'agir dans notre vie? De dire, Seigneur, je suis prêt encore à mettre ma vie sur l'autel et à laisser ta parole, épée tranchante et pénétrante, agir en moi. Êtes-vous encore capable de dire au Seigneur, je suis une masse d'argile, Seigneur? Plonge-moi dans l'eau de ta parole et façonne-moi en me mettant sur le tour. Ou alors vous considérez-vous déjà comme un vase passé au four. Ça y est, vous êtes cuit. Plus rien ne peut être touché parce que sinon, oh, on risquerait de tout casser. Mais il peut arriver un moment où nous réfléchissons à deux fois avant de dire « je vais mettre ma vie sur l'autel » ou « je vais mettre ma vie sur comme une masse d'argile sur le tour » parce que nous savons que chaque fois que nous demandons quelque chose au Seigneur de changer, de nous transformer, de nous renouveler, on peut passer par des moments difficiles. Parce que quand Dieu commence à agir au plus profond de nous-mêmes, il remet des choses en place, il en bouge d'autres et c'est tout un travail. C'est un temps de souffrance qui amène à une délivrance malgré tout. Ou alors, finalement, je ne l'espère pas, mais je le dis quand même. Peut-être, oui, vous trouvez-vous suffisamment satisfait de vous-même. Peut-être parce que vous seriez encore trop ignorant de tout ce que Christ veut faire en vous. Ou alors, et c'est plus grave encore, avez-vous capitulé? Avez-vous baissé les bras? Face à certaines situations, face à vous-même, au point de ne plus rien demander, espérer, et vous dire, eh bien, je vais continuer ainsi. On va se débrouiller avec toi, Seigneur. De quand date et de quelle nature était la dernière victoire que Christ vous a accordée quant à votre propre vie? Je ne parle pas d'exaucement de requêtes, mais d'une victoire, oui, sur les bastions d'iniquité, une victoire sur notre caractère, une victoire de l'avancement de la vie de Christ en vous. Est-ce que dans cette année scolaire qui est en train de s'achever, est-ce que Christ a changé quelque chose en vous? Est-ce que la vie de Christ a gagné en vous? N'avez-vous pas envie encore d'aller de l'avant? Mon frère, ma sœur, de franchir tes limites, de franchir des barrières qui te bloque, qui nous bloque depuis tant de temps, peut-être colère, jalousie, peur, timidité, intempérance, mais aussi, je le disais, des addictions injustes, pornographie, pratiques sexuelles impures, alcool, cupidité et tout ce que vous voulez. Voulez-vous pas dépasser tout cela? Je vais vous dire, c'est ici que se joue l'essentiel du combat spirituel. Avant de vouloir vous en prendre aux démons et aux principautés, le premier combat spirituel, il est là. Parce que ça ne sert à rien de s'en prendre là-haut, si d'abord ce n'est pas réglé ici. Parce que si le diable voit qu'en vous, il y a encore quelque chose de lui, ça ne sert à rien, ça ne l'impressionne pas. Attends, toi tu viens me dire quelque chose, mais attends, là, moi, tu sais qu'il suffit que je mette une image devant toi et ça y est, je t'ai attrapé. Vous comprenez, le problème n'est pas là, ça ne lui fait pas peur. Mais quand un chrétien comprend bien ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6, 10 et retient ces deux verbes, tenir ferme et résiste. Résister à l'oppression. Comme Marie Durand qui, dans sa tour d'aigle morte, avec son clou aggravé dans la pierre, résistait. Lorsqu'un chrétien prend position en disant « je vais tenir bon » face à toutes les oppressions, alors là, véritablement, Satan recule. Un peu à la manière de ce soldat de David qui un jour a dit « c'est un champ de lentilles ». Mais c'est un champ qui appartient aux fils d'Israël. Et les Philistins ne mettront pas les pieds dedans. Et il a combattu. Il a tenu sa position. Ça impressionne l'ennemi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous un refus. Un refus d'être asservi. Un refus de trouver des compromis. Et un désir de tenir notre place. Et je vais vous dire, pour cela, nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut que nous marchions en vainqueurs, révélant notre nature véritable à ce monde. Il ne veut pas que nous soyons un peuple de chrétiens timorés, de gens médiocres. Trop de chrétiens, mes frères et sœurs, sont mal dans leur peau et mal dans leur foi. Et trop sont contaminés par l'esprit de ce siècle. Ils sont plus attachés à Dieu par la crainte d'un jugement que par le désir de marcher par la foi et en pureté. Quel que soit le monde dans lequel nous vivons, quel que soit le temps présent dans lequel nous vivons, je ne me laisserai pas asservir. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi et non pas pour une vie en demi-teinte. Paul voulait rendre les Juifs jaloux. Est-ce que nous sommes capables de rendre jaloux nos voisins? Non pas jaloux de notre dernier écran plat, mais jaloux de la gloire de Christ qui est en nous. Exciter leur jalousie de ce que nous possédons quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Combien même donneraient-ils tout l'argent du monde s'ils ne reviennent pas à Christ? Ils ne le trouveront pas. Nous voulons exciter la jalousie, faire monter le niveau de jalousie dans ce monde. Plus nous révélerons notre nature, plus le niveau de jalousie va monter en France. Et si le niveau de jalousie à l'égard des choses de Dieu est bas, c'est parce que notre révélation est trop basse. Parce que nous ne donnons pas envie aux gens. Vous mettez un Étienne ici et il va exciter la jalousie des gens. Mais je vais vous dire, parce que je ne veux pas être que négatif, je sais que plusieurs fois, Dieu nous a fait la grâce d'exciter la jalousie des gens. Gloire au Seigneur pour ça. Maintenant, Dieu soit loué. Il n'ignore rien du combat que nous devons mener. De toutes les pressions morales, les oppressions spirituelles qui pèsent sur nous. Il ne nous dit pas, maintenant tu te débrouilles. il sait que nous sommes engagés dans une lutte qui est un véritable corps à corps. Alors il ne nous demande pas de lutter et de nous manifester à ce monde par nos forces, par notre puissance ou même par le commandement de la loi. Mais il nous donne son esprit. Il nous plonge dans la puissance de son esprit pour que, revêtus de sa puissance, alors que nous vivons encore dans ce monde corrompu et corrupteur, alors que nous vivons encore dans ce temps présent médiocre, nous devenions comme protégés, inaccessibles aux assauts du monde, parce que nous sommes plongés dans la puissance du Saint-Esprit. La version Semeur traduit ainsi Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Si nous ne nous fortifions pas dans la puissance du Seigneur, nous ne pourrons pas vivre pleinement la vie de Christ en nous. Certes, par la nouvelle naissance et la conversion, nous sommes devenus participants de la nature de Jésus-Christ. Sa vie a été implantée en nous comme une semence, mais sans la puissance du Saint-Esprit, cette nature, cette semence ne pourra pas se développer à cause de toutes nos limitations, à cause de toutes les oppressions de ce monde. Je vais vous dire, ça ne remet pas en cause le salut, parce que Dieu sauve ceux en qui il voit la semence de Jésus-Christ. Mais ça nous fait passer par contre, je ne peux pas développer ces choses, à côté des récompenses que Dieu a préparées pour nous. Parce que les récompenses célestes ne seront données qu'à ceux qui auront porté du fruit. Mais la semence de Christ qui est en nous ne pourra se développer que par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans nos vies et à travers nos vies. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour tenir bon. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit épuisée dans la force du Saint-Esprit pour nous opposer aux pressions externes et aux limitations internes. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour être libres. La première mission du Saint-Esprit à l'égard du croyant, c'est de le rendre libre. C'est ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 3, 17, 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Quand nous sommes plongés dans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes libres. Parce que le Saint-Esprit a la puissance de, je vais le dire comme ça, de faire voler en éclats toutes nos limitations, de guérir les blessures les plus profondes, de renverser toutes les oppressions, toutes les barrières. Il peut le faire à l'instant même. Et nous pourrions être nombreux à témoigner qu'en un instant, Dieu a changé nos vies. Mais il peut aussi prendre le temps que nous mûrissions, le temps que nous comprenions notre situation. Le temps peut-être que nous mettions à genoux demandant pardon à Dieu pour certaines choses que nous avons acceptées, tolérées dans nos vies. Le temps de la repentance et le temps de la foi qui permettra ensuite au Saint-Esprit d'agir comme il le veut. Le Saint-Esprit nous donne la véritable liberté parce qu'il nous revêt de la puissance de Dieu. Et là, ne s'arrête pas sa mission. Paul continue son verset en disant « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit, le Seigneur. » Quand le Saint-Esprit nous libère, son travail n'est pas fini. Quand le Saint-Esprit détruit en nous un bastion d'injustice, d'iniquité, quand il change notre caractère, quand il apaise nos colères, quand il guérit nos souffrances, c'est un champ nouveau qu'il vient d'ouvrir. Et alors, il commence un travail de transformation. Nous le comprenons, tout ce qui est en nous, et parfois même ce qui est autour de nous, nous bloque, nous empêche. Je voudrais, Seigneur, aller plus loin. Mais tu vois, il y a ces choses qui sont dans ma vie. Il y a ce caractère qui, pardonnez-moi, je veux le dire comme ça, mais vous comprenez bien ce que je veux dire, qui parfois me pourrit la vie. Mais quand le Saint-Esprit agit et qu'il me rend libre, Mais je suis libre. Un peu comme le boiteux de la belle porte, qui tous les jours était prisonnier à l'entrée du temple de Jérusalem. Il voyait les gens rentrer. Il était à la plus belle porte, la porte de Nicanor, en bronze, d'une grande valeur, disait-on. Mais lui, il voyait les gens rentrer. Lui était à la porte. Et toi, tu es trop souvent à la porte, alors que tu voudrais rentrer. Et voilà qu'un jour, l'Esprit de Dieu passe, il te guérit. Alors après, tu marches, tu loues le Seigneur, tu cours et tu sautes, parce que tu es libre, libre, libre. Et alors tu te rends compte, mais maintenant Seigneur, si ces choses qui me terrorisaient, j'ai été terrorisé par l'iniquité, j'ai été terrorisé par les choses qu'elle pouvait soulever en moi. Et un jour, il m'a rendu libre, et je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Et je me suis rendu compte, mais maintenant Seigneur, je peux aller de l'avant. Maintenant tu peux faire des choses nouvelles dans ma vie. Et la nature de Christ s'est développée. M'ayant libéré, il m'a transformé. Oh mes frères et sœurs, ce que je veux dire, c'est que le baptême du Saint-Esprit, l'immersion dans la puissance divine, ou je le dis à des pentecôtistes, ce n'est donc pas simplement parler en langue, ce n'est pas simplement qu'exercer la prophétie, c'est rentrer premièrement dans une autre dimension de communion avec Dieu. Par la nouvelle naissance, le parfait et l'infini de Dieu vient habiter en nous, l'Esprit de Christ vient habiter en nous. Mais par le baptême du Saint-Esprit, par cette immersion, ce plongeon, c'est la même chose, hein, trois mots pour dire la même chose, dans la puissance du Saint-Esprit, c'est moi qui rentre dans l'infini de Dieu. Ce n'est plus seulement Dieu qui vient en moi, mais c'est moi qui suis propulsé dans la dimension extraordinaire de Dieu. Infinie sagesse, infinie pureté, infinie connaissance, infinie puissance, infinie gloire de Dieu. Je ne dis pas que lorsque nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous avons déjà reçu tout cet infini, mais nous y avons accès. Nous y avons accès. Ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une histoire extraordinaire. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi rentrer dans une autre dimension de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Né de nouveau, l'Esprit de Christ vit en nous, mais immergé en lui, nous sommes placés dans sa puissance de libération et de transformation, afin que la nature de Christ qui est en nous commence à se révéler dans notre vie, à travers notre vie, dans ce monde. Alléluia. Je ne suis qu'un petit buisson. Tout sec, dans un désert. Par moi-même, je n'attire pas l'œil des hommes. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit descend sur moi, un feu s'allume. En un instant, il pourrait me dévorer. Mais Dieu me fait la grâce, moi qui ne suis qu'un vase de terre, de porter en moi cette grande puissance, ce trésor. Et lorsque je permets à cette puissance de briller, alors les hommes qui passent au loin se détournent pour venir voir ce petit buisson que je suis. Le Seigneur veut que nous nous révélions dans ce monde. Il ne veut pas que nous menions une vie médiocre. Vous savez, ça veut dire médiocre. Hein. C'est pas mauvais, mauvais. C'est passable. Pardonnez-moi d'être trop direct, mais trop souvent, nous sommes passables. Mention passable. Dans beaucoup de situations, vous, moi, tout, ok. Alors que Dieu est le parfait. Et que le parfait est en nous. Si je dis ça, c'est pas pour nous condamner, mais c'est comme pour essayer de nous exciter à dire, mais Christ va nous faire vivre davantage. Alors je veux regarder à cet homme, Étienne. Waouh. Ah bien sûr, on regarde à la fin d'Étienne. Mais la fin d'Étienne, est-ce que ce ne sont que des pierres? N'est-ce pas surtout le ciel qui s'est ouvert? Et alors que les pierres arrivaient, je crois que l'Esprit du Seigneur est tombé sur lui. Étienne s'est endormi. Mais il est mort en voyant la gloire de Dieu. Cette gloire à venir, lui, il l'a touché au bout de sa vie. Avant même que Jésus revienne, il a touché cette gloire. Je crois que c'est extraordinaire. C'est ce que Christ veut faire de nos vies. Comprenez bien, si je dis ça, c'est parce qu'il ne veut pas que nous soyons toute nos vies à nous morfondre, à être des chrétiens sans relief, alors que nous avons tant et tant à donner au monde, à montrer au monde. Mais je finis en disant ceci. La première chose, la plus importante dans notre génération, c'est que nous soyons un peuple debout. Car vient le temps où pour Jésus-Christ, il nous faudra prendre position. Car le monde va vouloir nous asservir. Et il va vouloir faire tomber l'Église. Car il ne supportera plus d'entendre l'Évangile. Il nous condamnera à cause de l'Évangile. Et il nous faudra être forts. Parce que c'est dans ce moment-là, quand les ténèbres les plus épaisses tombent sur le monde, que la lumière doit briller. Mais pour cela, il faut qu'elle brille en moi, ma petite lumière. Qu'elle brille en moi pour éclairer le monde. Si dans ce que j'ai dit ce matin, il y a quelque chose qui a pu t'interpeller, mon frère, ma sœur, mon ami. Il y a peut-être aussi une aspiration dans ton cœur, pas simplement soupirer, souffrir, gémir. Ce monde est mauvais, mais un désir de dire, Seigneur, dans ce monde mauvais, j'ai la puissance du Saint-Esprit pour faire la différence. Et si tu dis, Seigneur, je ne veux pas continuer à vivre comme je suis, je veux aller plus loin, je veux remporter de nouvelles victoires, je veux manifester davantage la nature de Christ en moi et autour de moi. Si le Seigneur a pu parler à ton cœur, je voudrais, alors que nous allons avoir un temps de prière, simplement t'inviter à te lever à ta place. Si dans ce que tu as entendu, tu es interpellé. Et demander. Parce que moi, je ne peux rien faire. Mais le Saint-Esprit peut tout. Demander au Saint-Esprit d'agir. Peut-être que là, tu es en train de te dire d'une manière toute particulière, oui Seigneur, j'ai besoin que tu agisses en moi dans ce domaine-là. Je ne veux plus vivre dans cette compromission, dans ce statu quo. Je ne veux plus vivre, Seigneur, dans un état de capitulation. Parce que Seigneur, je veux grandir en toi et que tu grandisses en moi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais les raisons qui poussent mes frères et sœurs, mes amis à se lever maintenant. Elles viennent du plus profond de leur cœur. Parce qu'au-delà de ta parole, Seigneur, c'est ton esprit qui agit en nous. Nous ne sommes pas là pour nous juger, je ne veux pas juger, je ne veux pas prononcer une condamnation. Mais Seigneur, à travers ces paroles ce matin, oui, ce que je désire, c'était nous exciter. Exciter, Seigneur, nos sens spirituels à vivre tout ce que tu veux nous donner. Nous ne voulons pas être médiocres devant toi. Nous ne voulons pas être juste passables, juste sauvables. Nous voulons, Seigneur, dans le temps présent, briller pour toi. Mais pour cela, il faut que tu grandisses en nous. Or, tu connais toutes les oppressions, toutes les limites auxquelles nous faisons face chaque jour, toutes les luttes, les combats que nous devons mener. Mais Seigneur, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos forces, nous sommes incapables. Alors je prie pour que ce matin, il y ait une plus grande révélation du Saint-Esprit au milieu de nous. Et je te demande, ô cher Seigneur, ô cher Saint-Esprit, toi qui es le Dieu libérateur, je te demande de libérer ce matin, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons maintenant un temps de liberté, un temps de liberté. Seigneur, fais tomber les chaînes. Seigneur, mon Dieu, fais tomber les forteresses. Seigneur, mon Dieu, guéris les pensées, les blessures les plus profondes de l'âme. Libère-nous de tout ce qui nous entrave. Nous ne voulons pas être des esclaves. Nous sommes un peuple libre. Nous sommes les fils de Dieu. Et Seigneur, si nous demandons cette liberté, c'est afin que tu nous transformes par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur, pour que ceux qui ont besoin de cette puissance puissent la recevoir. Tu es celui qui envoie ton esprit. Seigneur, baptise, plonge, revêt-nous de ta puissance. Car sans toi, que pouvons-nous faire? Car sans toi, que pouvons-nous faire, Seigneur? Oh mon Dieu, comme Étienne, être plein d'Esprit Saint, être plein de foi, être plein de grâce, de sagesse, de lumière, de sainteté, de pureté. Voilà notre désir, mais sans ton Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors console-nous ce matin, console-nous en nous plongeant dans ta présence, en nous plongeant dans ta puissance, console nos cœurs. Merci Jésus d'agir. Merci Saint-Esprit d'agir maintenant. Prenons le temps de proclamer le Seigneur. Alléluia.